7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins avec, vous l'entendez peut-être, des habits tout neufs, un nouveau générique pour l'émission. Aujourd'hui, quel avenir pour l'adoption internationale? Jamais le nombre d'enfants adoptés par des parents français n'a été aussi faible depuis 30 ans. Adopter un enfant à l'étranger peut désormais parfois prendre plus de 3 années. Une fois l'agrément obtenu par l'État français, les familles européennes ou américaines qui désirent adopter un enfant connaissent les mêmes difficultés d'ailleurs. Alors pourquoi les adoptions internationales se sont-elles raréfiées ces 10 dernières années? Allons-nous vers la fin de l'adoption? Faut-il d'ailleurs s'en réjouir ou s'en inquiéter? Nous allons en discuter avec nos invités. Odile Roussel, ambassadrice chargée de l'adoption internationale auprès du ministère des Affaires étrangères. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la mission de l'adoption internationale. Pierre Lévy-Soussan, vous êtes pédopsychiatre spécialiste de l'adoption. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié entre autres Destin de l'adoption chez Fayard et aux éditions Poche. Et puis nous sommes au téléphone avec Nathalie Parent, présidente de Enfance et Familles d'Adoption, qui est l'une des principales adoptions principales associations de parents adoptants. Bonjour Nathalie Parent.
Bonjour.
Et le journaliste Bernard Laine est dans le studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté, vous, sur les services français de l'aide sociale à l'enfance et vous nous direz pourquoi il y a si peu d'enfants adoptables sur le sol français comparé à d'autres pays européens. Et puis on regardera le cas de la Corée du Sud à Séoul avec notre correspondant Frédéric Ojardias. Il nous expliquera pourquoi et comment la Corée a fermé ses frontières à l'adoption internationale et quelles conséquences pour les enfants abandonnés. Voilà, l'adoption en question, c'est aujourd'hui chez cette milliards de voisins. Vos questions, vos réactions si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71 et puis sur Twitter hashtag 7 milliards. Odile Roussel, quelle est la situation de l'adoption internationale aujourd'hui? Alors quand on parle d'un effondrement des chiffres de l'adoption internationale.
Effectivement, en 2014, nous avons délivré environ 1070 visas adoption. C'est plus de 4 fois moins qu'en 2005, qui était l'année où il y en a eu le plus. Ça veut dire qu'environ 1100 enfants sont entrés en France pendant cette année-là, en 2014. La différence de chiffres s'expliquant par le fait que certains pays demandent une période de placement. Mmh. Donc les enfants sont entrés sur le territoire français avec leurs parents adoptifs pour un placement et l'adoption proprement dite n'aura lieu que dans quelques mois ou un an plus tard.
Mais grosso modo, les chiffres ont été divisés par 4 en quelques années.
En 10 ans.
Oui, c'est ça.
Enfin, en 9 ans.
Pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un certain nombre de facteurs. D'abord, l'application de la Convention de la Haye est de plus en plus large. De plus en plus de pays ont ratifié cette convention.
Alors, la Convention de la Haye, c'est une convention qui cherche à rendre plus éthique à mieux encadrer avec des textes internationaux l'adoption, que ça ne soit pas un système d'échange de marchandises, de marchandisation de l'adoption.
Tout à fait. Donc, en soi, c'est une bonne chose, puisque l'encadrement juridique des adoptions progresse. L'application de cette convention a cependant un certain nombre de conséquences. Le principe de subsidiarité, notamment, qui veut que les enfants, qu'une solution nationale soit d'abord trouvée par les enfants.
C'est ça. Un enfant abandonné, d'abord, on cherche soit dans le cercle de la famille élargie, soit
une adoption nationale ou un placement en famille d'accueil aussi. Mmh. Enfin, toutes les solutions nationales avant que l'enfant soit proposé à l'international. Mmh. Donc, ça, forcément, mécaniquement, si j'ose dire, diminuer le nombre des adoptions dans un certain nombre de pays. Lorsqu'un État ratifie la Convention de la Haye et la met en œuvre, il y a généralement une période de suspension, plus ou moins longue, en fonction du temps que met cet État à mettre en place tout le système d'adoption conforme à la Haye. Et ces suspensions, parfois, durent quelques mois, mais peuvent durer plusieurs années. Donc là aussi, ça entraîne un arrêt des adoptions dans ces pays. Et lorsque l'adoption reprend après une telle période de suspension, généralement, elle reprend à des niveaux, là je parle en termes de chiffres, je ne parle pas en termes de qualité, en termes de chiffres, elle reprend à des niveaux bien inférieurs à ceux qu'on connaissait auparavant. Un exemple qui concerne beaucoup de familles en France, Haïti. Les adoptions reprennent progressivement à Haïti, mais sans commune mesure en termes de chiffres, encore une fois, avec ce qui était, si était le cas avant le séisme et avant la suspension et la ratification de la haie. Aujourd'hui, par exemple, une vingtaine d'enfants par an sont adoptés par des familles françaises.
Il faut rappeler qu'en 2010, au moment du séisme, il y a eu un scandale de l'adoption des enfants en Haïti, avec des dérives, des enfants littéralement achetés par des organismes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La Russie, le Vietnam, ce sont les deux premier pays d'origine des enfants adoptés en France.
Oui.
C'est ça. Donc, ça continue, ça fonctionne.
Alors, le Vietnam est un pays qui a ratifié la Convention de la Haye, donc il y a déjà un certain temps. Les adoptions se font, de manière conforme à la Haye. Bon, même si dans le détail, il faut toujours être vigilant sur la manière dont se passent les choses, parce qu'une autre des conséquences de l'application de la Convention de la Haye, c'est que l'argent de l'adoption qui auparavant était donné par les familles et qui allait directement soit à des intermédiaires, soit aux institutions.
Des orphelinats.
Ce que j'appelle institutions, sont les orphelinats ou les centres d'accueil des enfants. Aujourd'hui, cet argent, d'abord théoriquement il n'existe plus, et quand il existe encore, un peu, il n'y a pas de relation directe entre les orphelinats et les familles adoptantes. Donc, ceci pose un problème dans un certain nombre de pays, puisque les institutions qui, par ailleurs, ne sont pas financées à la hauteur suffisante par l'État, sont évidemment en manque de moyens. Donc, l'application de la Convention de la Haye représente un net progrès. Il n'en reste pas moins qu'il faut continuer d'être vigilant sur la manière dont se passent les choses.
Mais
Russie est un cas différent, puisque ce pays n'a pas l'intention de ratifier la Convention de la Haye, mais un traité bilatéral a été signé entre la France et la Russie, avec des changements par rapport à la situation antérieure. L'adoption individuelle, c'est-à-dire l'adoption où les parents adoptants, candidats à l'adoption, vont tout seuls ou avec des intermédiaires qu'ils ont choisis.
Contact directement un orphelinat en Russie.
C'est terminé. Alors, on a encore un certain nombre de dossiers qui avaient été engagés.
Évidemment.
Qui se termine, mais dorénavant, il n'y aura plus d'adoption qu'accompagnée.
Il y a un problème diplomatique entre la Russie et la France sur l'adoption ou pas? Parce que quand on vous entend, et d'ailleurs, ne serait-ce que votre poste l'explique, vous dépendez du ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'il y a. Parler d'adoption, c'est forcément parler de diplomatie?
Tout à fait. Une de nos missions, c'est de la relation et la coopération avec les États d'origine. Alors plus ou moins facile selon les cas. Le traité bilatéral que j'évoquais avec la Russie a fait l'objet de négociations. Difficile, parce qu'en plus cette négociation a été, si j'ose dire, parasitée, entre guillemets, par l'adoption de la loi mariage pour tous en France, et la Russie a exigé, a posé comme condition qu'il n'y ait plus d'adoption par des célibataires, ni par des homosexuels. En couple ou pas, d'ailleurs.
D'autres pays sont sur cette ligne, d'ailleurs.
Un certain nombre de pays
verrouiller le réservoir.
Officiellement ou officieusement, sont sur cette ligne, oui.
Nathalie Parent,
juste pour réagir par rapport à la Convention de la Haye. Il faut savoir qu'il y avait déjà un problème en France par le fait que sur les adoptions internationales, il y avait 70% de ces adoptions internationales qui étaient faites par des pays qui n'avaient pas signé la Convention de la Haye. Donc il n'y avait que 30% déjà d'adoptions éthiques en France.
C'est le contraire aujourd'hui.
Ce qui pose en tout cas.
Aujourd'hui, il y a plus d'adoptions donc éthiques qui respectent la Convention de la Haye.
Pour l'instant, c'est pas encore le cas.
62%
sur les chiffres, en tout cas de 2013.
2014.
Voilà, en tout cas sur les chiffres de 2013 que j'ai, et 2012 et 2011, etc. On en était toujours à 70% d'adoption hors convention de la Haye. Ce qui était un vrai problème en France, c'est-à-dire que il y avait des enfants qui arrivaient. Enfin, vraiment, il y avait deux types d'enfants, c'est-à-dire les enfants bien protégés avec la convention de la Haye pour éviter le trafic international, et des enfants non protégés avec à haut risque de trafic, avec des adoptions les plus à risque qu'il soit, c'est-à-dire non protégé par une association, non protégé par les lois. Donc déjà, cela posait un problème.
Ce qui veut dire que là, si je vous comprends bien, finalement, plus l'adoption devient éthique, moins il y a d'enfants adoptables pour des familles en Europe, aux États-Unis. Le problème est le même pour des familles, par exemple, américaines ou australiennes. Et puis, en plus, viennent se greffer les problèmes diplomatiques habituels, les fâcheries, par exemple, entre la Russie et l'Union européenne, ou des choses comme ça.
Dans ma position, nous n'avons pas de conséquences des fâcheries générales sur l'adoption.
On sait que ça a des incidences.
En tout cas,
qu'il y a des fluctuations.
Ce que je voulais te dire pour répondre au professeur Lévy-Soussan, c'est que le chiffre s'est inversé l'année dernière. Nous avons maintenant plus d'adoptions. 61 ou 62% des adoptions sont faites dans des pays laïcs.
Alors, je voudrais qu'on laisse quand même la parole à une association de parents adoptants ou adoptifs. Enfin, Nathalie Parent, à l'heure actuelle, combien de parents ont reçu leur agrément en France? C'est-à-dire qui l'État français qui valide qu'ils sont aptes à adopter et attendent un enfant.
Alors, les derniers chiffres de l'ONED, donc au 31 décembre 2013, font état de un petit peu plus de 19 000 familles ayant un agrément en cours de validité. Ensuite, bien évidemment, Madame l'ambassadrice vous a donné le chiffre de l'adoption internationale et se rajoutent les presque 700 adoptions nationales, donc d'enfants pupilles de l'État qui ont été adoptés en 2013.
Oui, c'est ça, c'est plus près de 800, me semble-t-il. Mais enfin, en tout état de cause, on n'est pas à plus de 2000 enfants adoptés chaque année et sur plusieurs dizaines de milliers de familles qui attendent un enfant finalement.
Tout à fait. C'est à peu près le chiffre des enfants adoptés pupilles de l'État est à peu près constant ces dernières années. On n'a pas le chiffre 2014 qui ne sera publié que début 2016. Mais néanmoins, on est à peu près sur des chiffres constants.
Ça veut dire pour les familles qui attendent un enfant aujourd'hui, quel type de chemin de croix ?
Alors le chemin de croix, moi j'appelle le chemin de croix plutôt celui des enfants qu'attendent dans les centres. C'est vrai que par contre, vous avez tout à fait raison, pour les futurs parents c'est très compliqué. On sait parfaitement qu'un certain nombre ne pourront pas aboutir dans leur projet. Et pour d'autres, il faudra refaire un deuxième agrément, voire parfois un troisième, puisque la durée de validité de l'agrément est de 5 ans et qu'un certain nombre de procédures, entre autres à l'international, les délais d'attente sont de 6, 7, 8 ans. Par conséquent, le premier agrément ne sera pas utilisé. Par ailleurs, un certain nombre de personnes ayant un agrément ne correspondent plus aujourd'hui aux demandes des pays d'origine qui correspondraient aux besoins de l'enfant qui est proposé à l'adoption, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international. Et ces personnes-là ne pourront pas aboutir dans leur projet et devront donc y renoncer.
Ouais. Est-ce qu'on peut redire en quelques mots vraiment les principaux critères pour être éligible à l'adoption ?
Éligible à l'adoption ou éligible à l'agrément ?
Non, à l'agrément, oui, tout à fait.
L'agrément.
Quand on est un parent, un homme, une femme, ou en couple.
Oui, alors, soit c'est avoir plus de 28 ans ou plus de 2 ans de mariage. C'est tout. Ce sont les deux seules obligations légales en France.
Des conditions de ressources également ?
Non. Pas du tout. Ce sont des conditions après par l'évaluation qui en est faite.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Bien évidemment, l'agrément ne sera pas donné si vous vivez de mendicité. Néanmoins, il n'y a pas dans la loi une condition de ressources minimum. C'est ensuite l'évaluation de votre capacité à accueillir un enfant.
Oui, alors il faut pas dire qu'il n'y a pas de conditions pour l'agrément, sans ça tout le travail des conseils généraux ne servirait à rien. Il y a des conditions légales qui demandent un entretien avec assistante sociale, avec un psychologue et ou psychiatre, qui s'assurent des conditions à la fois psychiques, à la fois sociales, d'accueil des parents. Et là, on a un second problème en France, c'est la qualité des agréments qui est extrêmement peu homogène. Et ça fait longtemps qu'elle n'est plus adaptée à la réalité de l'adoption internationale, voire même de l'adoption tout court. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité qui retentit à l'international, c'est-à-dire du fait que les agréments effectués en France ont perdu énormément de leur crédibilité et que donc la France les couples français venant en toute bonne foi parfois avec des agréments qui ne sont plus du tout à la hauteur des exigences internationales.
Ce qui expliquerait la distorsion des chiffres entre le nombre d'adultes attendant de pouvoir adopter un enfant et puis le nombre réel d'enfants.
Alors, pas forcément, mais en tout cas, il y a tellement pléthore d'agréments pour des personnes qui, sans doute, ne répondaient plus du tout aux critères. Donc, c'est sûr qu'il y a une surdimension du nombre d'agréments.
La France donne de toute façon trop d'agréments. Ça, c'est votre.
Non, c'est pas qu'elle en donne trop. Elle en donne forcément trop. Mais la première chose, c'est qu'elle devrait avoir des critères beaucoup plus sélectifs d'agréments pour améliorer la qualité des parents adoptants.
Nathalie Parent, évidemment, vous voulez réagir là-dessus?
Oui, oui. Je parlais, moi, de critères légaux. Bien évidemment, je rejoins le professeur Lévy-Soussan. Ce qu'il faut également rajouter, c'est que au niveau de la France, il n'y a absolument aucune ou très peu de préparation des futurs parents à ce qu'est la parentalité adoptive. Mmh. Et pour certains, dans certains départements, c'est très disparate. Mmh. Une simple réunion d'information qui va aborder quelques points juridiques et administratifs et qui ne va pas véritablement parler des besoins des enfants et surtout des enfants qui sont en attente d'adoption, ce qui fait qu'il y a aussi une grosse distorsion entre le projet parental et la réalité de l'adoption aujourd'hui.
Vous restez avec nous, hein. Nous allons vous redonner dans quelques secondes le numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir en direct dans l'émission. On a parlé du Vietnam, de la Russie, les deux premiers pays dont sont issus les enfants qui sont à l'heure actuelle adoptés en France. On n'a pas encore parlé du continent africain qui est en réalité le principal continent en termes de continent. Hein. Pourvoyeur d'enfants, le mot est horrible, hein, mais dont les enfants sont issus lorsqu'ils sont adoptés en Europe. On y revient dans quelques instants.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Quel avenir pour l'adoption internationale? Bah oui, la question mérite d'être posée puisque on le sait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, le chiffre a été grosso modo divisé par 4, hein, en 5 ans. Vous nous le disiez, Odile Roussel, vous faites partie du ministère des Affaires étrangères puisque vous êtes ambassadrice chargée de l'adoption internationale. On n'a pas encore parlé du continent africain qui reste aujourd'hui un continent important, le premier continent en termes d'origine des enfants qui arrivent et qui sont adoptés dans l'Union européenne, on peut élargir au-delà de la France ? Difficilement, vous faites la grimace.
Je n'élargirai pas au-delà de la France. C'est un peu une spécificité française. On a un peu moins de 40% des enfants adoptés en 2014 qui provenaient du continent africain. Mmh. Il y a deux ou trois ans, on considérait que l'Afrique, l'Afrique francophone, que l'Afrique était l'avenir de l'adoption internationale. On a un petit peu révisé cette manière de voir pour diverses raisons. C'est aussi le continent où aujourd'hui se pose le plus de problèmes dans les procédures. La plupart des adoptants qui se rendent en Afrique pour chercher un enfant font une adoption individuelle. Donc on n'est pas du tout dans la conformité à la convention
dont on parlait tout à l'heure.
Alors c'est en train de changer petit à petit, pays par pays, mais on est quand même encore dans une situation où il y a beaucoup d'adoptions individuelles.
Donc beaucoup de marchandisation finalement. C'est ce que vous semblez dire ou pas forcément?
Possiblement, oui. Dans tous les cas, je ne veux pas jeter l'anathème, mais on peut suspecter qu'entre les problèmes d'état civil,
Pierre Lévy-Soussan, vous qui êtes pédopsychiatre spécialiste de l'adoption, qu'est-ce que ça pose comme problème les adoptions d'enfants venus du continent africain?
Il y a eu d'abord l'affaire de l'Arche de Zoé qui a fait énormément de mal aux adoptions françaises, dans le sens que cela a convaincu beaucoup d'intermédiaires d'adoption, etc., que la France pouvait faire n'importe quoi, pouvait favoriser des adoptions avec une motivation humanitaire, quitte à adopter des enfants pas adoptables.
D'enfants qui n'étaient pas abandonnés, qui avaient des parents biologiques bien portants.
Ça fait beaucoup de mal à la France, beaucoup de mal à la France parce que c'était un peu exceptionnel dans le cadre de l'Arche de Zoé, mais ils ont un peu généralisé par rapport.
Il y a encore des conséquences aujourd'hui dans les relations entre la France et plusieurs pays subsahariens. Voilà. On va y revenir. Hein. Vous restez avec nous. Nous rendons l'antenne dans quelques secondes pour le flash sur RFI. Et nous posons cette question. Quel avenir pour l'adoption internationale? Chiffre qui a été divisé par 4 en 5 ans pour le nombre d'enfants adoptés par des familles sur le sol français. On parlera aussi des enfants adoptables en France, nés en France. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, quel avenir pour l'adoption internationale? On le disait en première partie d'émission avec nos invités, les chiffres ont été divisés par 4 en 5 ans. On est à peine plus de 1000 enfants adoptés par des familles en France. Très grosse difficulté également d'ailleurs pour les familles dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, à adopter des enfants venus d'ailleurs, venus de l'étranger. On en parle avec vous, Odile Roussel, ambassadrice chargée de l'adoption internationale auprès du ministère des Affaires étrangères et directrice de la mission de l'adoption internationale. Avec vous également Pierre Lévy-Soussan, vous êtes médecin pédopsychiatre spécialiste de l'adoption et vous avez publié Destin de l'adoption aux éditions Fayard et Poche. Et Nathalie Parent, vous êtes au téléphone avec nous, présidente de l'enfance, de Enfance et Famille d'Adoption, l'une des principales associations de parents adoptants. Et puis on parlera ensuite de la situation des enfants adoptables en France, parce que ils sont maintenant presque aussi nombreux finalement que les enfants venus de l'étranger. Près de 800 enfants qui sont adoptés chaque année sur le sol français, les enfants nés en France. Bernard Laine, vous avez consacré un chapitre à un très gros livre sur l'aide sociale à l'enfance en France. On en parlera avec vous. Mais tout de suite, direction la Corée du Sud. On est en ligne avec notre correspondant à Séoul. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors la Corée du Sud a pendant longtemps été connue, c'est vrai, pour être un pays grand exportateur, je le dis avec vraiment beaucoup de guillemets, de bébés confiés à l'adoption internationale. Mais en 10 ans, le nombre de petits sud-coréens adoptés par des parents étrangers a chuté. Non pas en raison d'ailleurs du développement économique et social très rapide du pays, mais en raison d'une forte volonté politique de mettre fin à ce qui était vu finalement comme une véritable disgrâce nationale. Revenons déjà quelques années en arrière. Frédéric, pourquoi la Corée du Sud envoyait-elle autant de ses enfants à l'étranger pour y être adoptés ?
Oui Emmanuel, en fait la guerre de Corée s'est achevée en 1953 et elle a laissé un très grand nombre d'orphelins. Et c'est à ce moment-là que se sont mises en place de vastes structures d'adoption, notamment vers les États-Unis. Et puis ces structures se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en dépit de la hausse rapide du niveau de vie, le nombre de petits Coréens confiés à l'adoption internationale est resté très élevé. La principale raison, elle est culturelle. Les mères célibataires en Corée souffrent de très fortes discriminations. Elles sont rejetés, y compris par leur propre famille, et leurs enfants aussi sont stigmatisés. Et beaucoup de futures mères non mariées se sentent donc obligées de confier leur bébé à l'adoption. De nombreux centres d'accueil pour mères célibataires en Corée sont d'ailleurs tenus par des agences d'adoption. Et comme les Coréens eux-mêmes adoptent très très peu, ces bébés partent dans d'autres pays. Entre 1953 et 2001, 150 000 petits Sud-Coréens ont été envoyés à l'étranger.
Mais ces dernières années, donc, le gouvernement a drastiquement révisé ses lois sur l'adoption.
Oui, tout à fait. Séoul veut mettre fin à ces adoptions de bébés à l'étranger, considérées comme une honte nationale. Et puis aussi, il y a vraiment eu une activité de lobbying extraordinaire de la part d'adoptés devenus adultes qui sont revenus en Corée et qui luttent aujourd'hui pour que les droits des enfants soient mieux pris en compte. Aujourd'hui, les mères coréennes disposent d'un délai de rétraction de 7 jours si elles changent d'avis. La loi les oblige aussi maintenant à enregistrer la naissance. L'accouchement sous X n'est pas possible. Et l'idée, c'est que les enfants adoptés puissent un jour retrouver leurs parents biologiques s'ils le souhaitent. Et puis enfin, les conditions d'adoption ont été durcies. Et le résultat, c'est qu'en 10 ans, le nombre de bébés coréens envoyés à l'étranger a été divisé par 10.
Le problème, c'est que les Sud-Coréens n'ont pas vraiment pris le relais. Ils adoptent très peu, non ?
Oui Emmanuel, et du coup un nombre croissant d'enfants se retrouvent dans les orphelinats, faute de parents adoptifs. Et puis un autre effet pervers de ces nouvelles lois, qui pourtant partaient d'une bonne intention, hein, c'est que de nombreuses mères isolées refusent de déclarer la naissance pour ne laisser aucune trace dans leur registre d'état civil. Et on assiste en conséquence à une hausse tragique des abandons de bébés, parfois dans la rue. À Séoul, il y a un pasteur qui a installé une boîte à bébés qui permet de laisser son nouveau-né anonymement, et il affirme avoir recueilli 600 enfants depuis l'adoption de la nouvelle loi. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes enceintes proposent leur futur bébé à des parents qui cherchent à adopter. Et lorsqu'elles s'enregistrent dans une maternité, ces femmes enceintes vont utiliser la carte d'identité de la future mère adoptive et accoucher sous le nom de celle-ci. Et ainsi, le nom de la véritable mère n'apparaît nulle part. Et tout ceci se passe hors de tout cadre juridique, hors de tout contrôle. Le gouvernement est donc très critiqué, notamment parce qu'il refuse de s'attaquer au cœur du problème. Il n'y a presque aucune aide sociale pour les mères célibataires. célibataire.
Merci beaucoup Frédéric Ojardias pour ce point sur la Corée du Sud. Ça peut sembler tout de même très étonnant pour un pays aussi développé, Pierre Lévy-Soussan.
Alors à la fois oui et à la fois non, c'est-à-dire on voit bien que lorsqu'on tombe dans un versant qui est celui justement de l'idéologie du lien du sang, c'est-à-dire de maintenir à tout prix avec une suppression de l'accouchement secret qui sont vraiment pourtant les bases de la protection de l'enfant, on en arrive à ce genre d'excès.
Mais le délai de rétractation par exemple de 7 jours, ça c'est plutôt une bonne chose pour une mère qui a le dessein d'abandonner son enfant.
Alors 7 jours, c'est peut-être un peu court. En France, il faut rappeler que c'est 2 mois le délai de rétractation. Ce délai avant, il était de 1 an, puis avant il était énorme. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait un délai de rétractation, parce qu'on se rend compte que généralement les femmes, soit elles changent d'avis au tout début, soit à la toute fin, mais rarement au milieu. Mais le problème là, c'est dans la suppression de l'accouchement secret, c'est-à-dire on voit bien que lorsqu'on supprime les possibilités justement d'accueillir un enfant sous le secret, tout de suite les dérives sont immédiates avec cette régression vers le tour, parce qu'en France il y avait effectivement les tours à l'assistance publique, on mettait des bébés, puis ensuite il y a eu les boîtes à bébés en Allemagne, il y a eu des boîtes à bébés en Italie. Donc lorsqu'on est comme cela dans la condamnation de ces mères qui abandonnent, elles sont tout simplement en détresse. Et ne pas accepter cette détresse pour sous prétexte justement de contrôle, c'est une forme de maltraitance à l'enfant.
Odile Roussel.
Moi, je n'ai pas de jugement ou d'analyse sur cette législation coréenne. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a très très peu d'enfants adoptés en Corée du Sud aujourd'hui. En même temps, nos organismes agréés pour l'adoption, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les adoptants dans leur et les enfants dans les projets d'adoption, puisque nous en avons de mémoire un ou deux en Corée, s'efforcent de mener à bien des projets d'adoption, mais ont beaucoup de mal avec ces agences, ces structures qui présentent de moins en moins d'enfants à l'adoption et qui par ailleurs les orientent de manière préférentielle vers les États-Unis.
Ceci dit, il y a aujourd'hui dans le tarissement du nombre d'enfants de l'adoption internationale adoptable par des familles au nord, il y a aussi le fait que des pays sortent de la pauvreté et donc ont un vivier intérieur de familles qui ont elles aussi, qui sont en manque d'enfants, qui ne peuvent pas concevoir d'enfants, qui ont envie d'adopter. C'est le cas notamment sur le continent sud-américain, non, Pierre?
Alors oui, ça c'est la bonne raison pour laquelle il y a une baisse, c'est-à-dire le fait que ce principe de subsidiarité par un pays qui a justement les capacités d'accueillir leurs propres enfants, ça c'est un vrai point positif.
Donc l'enfant reste dans sa culture d'origine.
Enfin, c'est pas tant qu'il reste dans sa culture, c'est qu'il est dans de bonnes conditions pour grandir, pour se développer et d'avoir un lien filiatif. C'est pas tant les conditions économiques, c'est vraiment les conditions psychiques d'accueil. Donc ça, c'est vraiment la bonne raison. Mais l'une des raisons de baisse importante sur un plan international, c'est que beaucoup de pays qui faisaient justement du trafic d'enfants et avec qui justement les pays développés étaient en relation, n'offrent plus ces enfants-là. Et là, c'est aussi une bonne chose que beaucoup plus de pays qui faisaient du trafic ne donnent plus à des associations qui validaient ces trafics-là pour l'adoption. Donc ça, c'est plutôt aussi positif.
Alors, nous sommes en ligne avec une auditrice qui nous appelle d'Abomey-Calavi, donc juste à côté de la capitale béninoise. Nous sommes en ligne avec Claire, bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Nous vous écoutons, vous avez appelé le standard au 33 1 84 22 71 71 pour réagir à l'émission qui est consacrée à l'avenir de l'adoption internationale.
Merci, je suis la présidente de la Fondation Regard d'Amour, une ONG qui accueille des enfants abandonnés et qui fait aussi de l'adoption. C'est pour ça que le sujet m'intéresse. Je partage tout ce qui a été déjà dit. C'est une très bonne chose que de vouloir restreindre un peu la question de la traite d'enfants, mais je crois que c'est inquiétant des mécanismes mis en place pour empêcher ou réduire l'adoption internationale. Quand je me pose une question, quel sort réserve-t-on à ces enfants abandonnés et orphelins qui ne peuvent pas être adoptés au plan national et qui sont dans la recherche d'une famille qu'il peut avoir au niveau international? Si je prends l'exemple du Bénin, depuis février 2015, nous avons ratifié la Convention de la Haye. Mais juste après, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a pris une note verbale pour interdire l'adoption internationale sans qu'aucun mécanisme ne soit mis en place.
Donc le ministère des Affaires étrangères béninois.
Oui, le ministère des Affaires étrangères du Bénin, pardon, qui a écrit à toutes les représentations diplomatiques et consulats pour dire que l'adoption internationale
c'était
est suspendue.
Fini. Mmh.
Pendant qu'il y a même des procédures en cours au niveau des juridictions qui n'avaient pas eu l'information.
Odile Roussel du ministère des Affaires étrangères en France, vous confirmez ça?
Ah, effectivement, il y a une suspension des adoptions au Bénin.
Les enfants béninois ne peuvent plus arriver là.
Pas tout à fait. Le temps que le pays se mette en place toutes les structures conformes à la Convention de La Haye. Mais les dossiers qui étaient en cours, qui étaient enregistrés ou pour lesquels la procédure était engagée avant la date de la suspension, ça n'est en principe jamais rétroactif. Ces dossiers-là continuent d'être examinés, instruits, et nous accordons des visas à des enfants béninois rejoignant leur famille adoptive encore aujourd'hui.
Claire, vous avez donné votre prénom au standard, Claire, mais vous avez précisé que vous êtes aussi l'ancienne ministre de la famille, une ancienne ministre de la famille. Alors, je ne connais pas tous les noms des ministres et anciens ministres du gouvernement béninois, mais peut-être pouvez-vous donner votre véritable identité, même si vous avez appelé spontanément au standard.
Mon nom, c'est Claire Bougan Ayemona. J'ai été ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité au Bénin de 2001 en 2003.
D'accord. Et alors, si je vous comprends bien, vous semblez dire que le fait que le Bénin soit signataire de la Convention de La Haye, ce qui est bien sûr ce qu'on ne peut pas déplorer, ce qui est plutôt une bonne chose, mais finalement là, ça bloque certains dossiers à l'heure actuelle.
Exactement, ça bloque certains dossiers, ça bloque également la possibilité pour certains enfants de bénéficier d'une adoption internationale. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas de demande nationale, mais les nationaux, d'une manière générale, ne veulent pas des enfants de plus de 2 ou 3 ans. Or, parfois, avant même que de déclarer un enfant abandonné et adoptable, l'enfant a déjà 5 et 6 ans.
Oui.
Et pour ces enfants, la chance, c'est généralement l'adoption internationale.
Bien sûr. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre.
Je voulais compléter ça par le fait que lorsqu'un pays signe la Convention de La Haye, il faut savoir que le coût de mise en place de cette Convention de La Haye est très important. Parce que cela suppose justement de faire justement un investissement vers la protection sociale, vers les conditions d'abandon, vers tout un certain nombre de postes.
Des services administratifs aujourd'hui,
voilà,
dans le contrôle.
Qui permet un abandon dans des conditions éthiques, qui permet une adoption et toute une chaîne dans des conditions éthiques. Et oui, cela a un coût important et que la protection de l'enfance est à ce prix-là. Et la seconde chose qui a été dite qui me semble importante, c'est le fait que parfois les adoptions locales ne sont pas favorisées parce que tout simplement il y a un refus des pays, des habitants pour cette adoption-là parce que les enfants sont à risque et sont présentent des pathologies parfois complexes. Et dans ces cas-là, ça pose une question par rapport à l'avenir de l'adoption, mais aussi par rapport à la discussion qu'il va y avoir. C'est-à-dire que l'adoption en ce moment évolue vers des adoptions de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, d'enfants de plus en plus à risque. Et là...
plus en plus âgés.
Plus en plus âgés, avec des pathologies importantes. Et là se pose la question du nouveau visage de l'adoption, c'est-à-dire est-ce que l'adoption doit être une forme internationale de protection de l'enfance ou bien une forme de construction d'une vie familiale. Parce qu'on va voir que tous les enfants à l'adoption n'ont pas forcément cette capacité à être adoptée.
Nous remercions beaucoup notre auditrice de nous avoir appelé. Je voudrais maintenant qu'on parle de la situation en France, parce qu'après tout, on a aujourd'hui, Bernard Lenne, je parle sous votre contrôle, vous avez enquêté sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance, puisque vous avez publié Enfants en souffrance. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Les oubliés, d'ailleurs, qui est consacré aux enfants pourraient être adoptés, en tout cas qui sont placés. On a en gros 275 000 mineurs qui sont placés à l'heure actuelle en centre ou en famille d'accueil. Alors tous ne sont pas adoptables, évidemment. Il peut y avoir des défaillances ponctuelles de la part de la famille biologique. Néanmoins, parmi eux, vous dites qu'entre 2 et 5% vivent placés jusqu'à leur majorité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vivre toute leur enfance, toute leur jeunesse placés, jamais repris par leurs parents biologiques. Donc, ils auraient pu être adoptables.
C'est pas nous qui le disons. Quand je dis nous, c'est Alexandra Riguet et moi qui avons écrit ce livre et fait cette enquête pendant 3 ans. Ce qu'ils disent, c'est d'abord Jean-Marie Colombani, qui a été le premier à utiliser ce mot d'oublier. Le mot a été repris ensuite par la Cour des comptes.
C'était l'auteur d'un rapport. Hein.
D'un rapport qui avait été demandé par Nicolas Sarkozy sur l'adoption.
Voilà, mais venons-en au fait, très rapidement, s'il vous plaît.
D'accord.
Parce qu'il nous reste peu de temps avant la fin
juste,
de l'émission.
En fait, ils sont 145 000 aujourd'hui, les enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans des foyers ou dans des familles d'accueil ou dans des lieux de vie. Est-ce que disent un certain nombre de gens qui ont enquêté, en particulier deux des inspecteurs généraux de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, c'est que parmi ces enfants, il y en a des milliers, qui pourraient être adoptés et qui ne le sont pas. Et par ça, c'est ça qui est
par
révoltant.
Par exemple, des enfants qui par ont exemple, un père inconnu, une mère placée dans un hôpital psychiatrique avec une très lourde pathologie psychiatrique, par
absolument.
Exemple, dont on sait qu'elle ne sera jamais capable de s'occuper de ses enfants.
Absolument. Ils sont des milliers. Alors, il y a un chiffre qui est cité par l'IGAS qui dit que chaque année, 3000 enfants qui rentrent sous le statut de délégation d'autorité parentale seraient susceptibles d'être adoptés. Peut-être pas une adoption plénière, peut-être...
Adoption simple, c'est-à-dire on maintient
simple.
Un lien avec les parents biologiques.
Vous multipliez par 18, hein, 18 ans. Ces enfants, vous arrivez à 54 000 enfants qui aujourd'hui, sur les 145 000 qui sont pris en charge par l'ASE, vous en avez 54 000 qui auraient pu avoir une vie familiale et qui ne l'ont pas.
Ces chiffres peuvent sûrement être contestés par des gens qui ne sont pas d'accord avec vos positions, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites surtout par rapport à d'autres pays développés, la Grande-Bretagne notamment. En Grande-Bretagne, on a beaucoup plus d'enfants qui sont adoptés sur le sol britannique.
L'essentiel de l'adoption anglaise se fait avec des enfants nés sur le sol britannique.
Alors, comment ça se fait, ça?
Ben, parce qu'il y a en France une philosophie, une administration qui n'admet pas l'idée, effectivement, que la protection de l'enfance pourrait passer par l'adoption. Pour eux, l'adoption est un échec total des services sociaux. C'est inadmissible qu'on puisse enlever un enfant à sa famille biologique pour lui faire avoir une vie sociale, une vie familiale normale.
Ce que vous dites dans votre livre, c'est que ça va même plus loin qu'une philosophie sur le lien biologique, qu'on peut contester, mais qui tient la route. Hein. Mais vous dites même, il y a quelques années, un des responsables de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance d'un département de la région parisienne, avait proféré devant nous une phrase terrible, je cite votre livre là. Les services et les travailleurs sociaux, disait-il, sont réticents à aider à l'adoption d'enfants dont ils ont la charge, parce qu'un enfant, pour eux, c'est plus d'argent.
C'est beaucoup plus d'argent. Un enfant qui aurait pu être adopté à 6 mois, c'est 1 million d'euros de moins pour l'aide sociale à l'enfance sur 18 ans.
Ce qui veut dire que les procédures pour adopter un enfant sur le sol français sont extrêmement lourdes.
Ah, tout est lourd.
Et il y a une lenteur quasi volontaire de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce que vous semblez dire ?
Volontaire. Elle fait partie, en tous les cas, d'une culture et personne ne peut imaginer, effectivement, qu'on puisse adopter des enfants pour les protéger.
Pierre Lévy-Soussan.
Oui, alors je vous suivrai pas sur le fait que l'ASE a un intérêt financier par rapport à ça. Pour moi, le blocage, il est absolument pas là.
Idéologique.
Pardon ?
Il est idéologique.
Oui, pour moi,
vous.
Le blocage est idéologique et c'est même pas une histoire d'enfants adoptés, c'est une histoire d'idéalisation du lien du sang. C'est-à-dire qu'en France, on ne conçoit pas une rupture avec une famille biologique en raison d'une maltraitance. Parce que le problème, c'est pas tant, une fois de plus pour moi, l'adoption en l'occurrence, c'est pouvoir protéger un enfant au maximum par rapport à une maltraitance. Et là, les raisons sont beaucoup plus claires et nettes. C'est-à-dire, lorsque vous voyez la loi de protection 2007 de la protection de l'enfance, le mot maltraitance est prononcé zéro fois. C'est-à-dire toute la culture, à la fois juridique, à la fois sociale, à la fois des psychologues de l'ASE, c'est avoir une collaboration avec la famille maltraitante par rapport à l'enfant. Donc il est sûr que tenter de rompre un lien avec un article 350 ou avec une délégation d'autorité parentale, c'est impossible parce que intrinsèquement, la maltraitance en France est niée. Alors ensuite, lorsqu'il y a une interruption du lien, parfois, ces enfants sont adoptables, mais pas du tout tous, parce que parfois, on arrive trop tard, tout simplement. Ce côté extrêmement lent, parce qu'il y avait un rapport de l'IGAS qui était exemplaire, qui était celui qui avait été fait par Madame S et Monsieur Neuf, lui parlait pour la première fois de toxicité parentale, et que là, la meilleure façon de protéger l'enfant, c'est avant tout de rompre son lien, et ensuite de voir s'ils sont adoptables.
L'adoption
comme mesure de protection de l'enfance, c'est une rupture du lien comme mesure de protection de l'enfance, et ensuite, certains seront adoptables.
Résultat, on a des enfants qui peuvent aller de foyer en foyer ou de famille d'accueil en famille d'accueil, de 0 à 18 ans ou de 5 à 18 ans, sans jamais pouvoir être adoptables, finalement.
Hein. Oui, parce que tout ce qui est là, à la fois, il y a le fait d'y penser et en fait, on n'y pense pas, à la fois le fait, justement, de ne pas pouvoir mettre en place en temps utile une rupture de lien et un placement de l'enfant qui lui permettra un autre avenir filiatif, en raison, là encore, de ce vrai tabou qui est à la fois le tabou de la maltraitance et à la fois de l'idéalisation du lien du sang.
Laissons la parole à Nathalie Parent, puisque vous dirigez l'une des principales associations de parents adoptifs, parce que Nathalie Parent, depuis des années, le gouvernement envisage de changer la loi pour faciliter des processus d'adoption, en tout cas d'adoption simple, sur le sol français pour des enfants nés en France. Où est-ce qu'on en est? Et vous, qu'est-ce que vous demandez en tant qu'association de parents adoptifs et vous représentez également des parents en attente d'enfants?
Tout à fait, des adoptés majeurs également. Effectivement, hein, je partage tout à fait l'avis que l'adoption, c'est avant tout une mesure de protection de l'enfance et que celle-ci n'est pas utilisée telle qu'elle. Ce que nous demandons, et il y a eu déjà plusieurs propositions de loi qui sont restées entre les deux chambres. Hein, il y a eu une proposition de loi qui est restée entre celle de Mme Tabarot, qui est restée devant le Sénat, et puis là, on a celle de Mme Meunier, qui est devant la porte de l'Assemblée nationale, et on ne sait pas trop où elle ira. En tout état de cause, clairement, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre d'enfants pupilles de l'État pour lesquels il n'y a pas de projet de fait, qui ne sait pas forcément de faire systématiquement un projet d'adoption, tout simplement parce que même si les enfants sont, et en France on sait que les enfants pupilles sont juridiquement adoptables, ils ne sont pas forcément tous d'un point de vue psycho-affectif adoptables. Mais ce que l'on ne fait pas aujourd'hui dans tous les départements, et ce qui devrait être obligatoire, c'est de faire un bilan de l'enfant qu'on appelle souvent bilan d'adoptabilité à tort, mais qui est un bilan pour savoir où en est l'enfant et est-ce qu'il est en capacité de rentrer dans un nouveau lien de filiation, entre autres pour ces enfants qui deviennent pupilles de l'État un petit peu grands. Mais en tout état de cause, je pense que on est absolument persuadés, c'est ce que nous réclamons, c'est qu'il y ait un projet de vie qui soit fait pour tous les enfants.
Notamment pour des familles d'accueil qui expriment le souhait parfois d'adopter l'enfant qu'ils accueillent pour l'aide sociale à l'enfance. Hein.
Oui, alors si l'enfant est pupille de l'État, effectivement, cette demande sera examinée. Mais ce que pour ces enfants qui sont pupilles et qui n'ont pas de projet de vie, c'est-à-dire ça peut être du parrainage, ça peut être les ancrer d'une manière ou d'une autre dans une famille, parce que ces enfants-là, à 18 ans, ils n'ont plus rien. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des contrats de jeunes majeurs, mais en tout état de cause, ces enfants ne sont ancrés nulle part. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose que l'on retrouve dans les pays à l'international qui n'ont pas de moyens de protection de l'enfance, où les enfants restent en institution jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, ils sont lâchés dans la nature.
Oui. Alors, justement, vous avez...
À 18 ans, on n'est pas fini complètement.
Il nous reste très peu de temps. Vous avez prononcé cette expression, finalement, enfant adoptable psychiquement. Je me tourne vers vous, Pierre Lévy-Soussan, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les enfants sont adoptés de plus en plus âgés. Un tiers des enfants adoptés en 2014 avaient plus de 5 ans. Donc là, on est sur l'adoption internationale essentiellement. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont à besoins spécifiques. Ça, c'est pour dire peu clairement qu'ils sont handicapés ou sinon en fratrie. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui un enfant adoptable? Parce que vous le disiez, c'est un projet familial, un enfant adopté. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour qu'un enfant puisse prendre racine là où il va être adopté, Pierre Lévy-Soussan, en termes clairs et en quelques mots?
Alors, en termes le plus brièvement possible, c'est-à-dire cela suppose que l'enfant a gardé une capacité à transformer un adulte en père ou en mère. Et ça, cette capacité de transformer, c'est non seulement
à s'attacher,
mais à le transformer en papa et en maman. Et ça, c'est compliqué. Et parfois, lorsqu'un enfant a été trop maltraité, trop longtemps, il perd cette capacité de faire confiance à l'autre, de dépendre à nouveau de l'autre. Et ça, on le voit bien chez les enfants qui ont été enfants des rues pendant beaucoup trop longtemps. Ils ne peuvent plus transformer ces adultes en père et mère. Ça
et suppose une capacité. Accepter l'amour et la tendresse qui vont être proposées par le parent adoptant.
Oui, et aussi la capacité régressive, la dépendance et le fait de dépendre d'autrui. C'est pour ça que ce mécanisme de transformation n'est en rien facile, et que là, pour le coup, c'est l'adoption plénière qui permet le plus ce mécanisme de transformation. Et vouloir envisager l'adoption simple dans les cas que nous avons évoqués juste auparavant, c'est-à-dire avec des anciens pupilles d'État qui ont été extrêmement maltraités par leur famille d'origine, pour moi, maintenir une adoption simple, c'est-à-dire un lien avec ces familles maltraitantes, pour moi, ça n'a aucun sens. Et que psychiquement, le fait de faire l'adoption plénière, ça serait la mesure la plus protectrice par rapport à ces enfants.
Il nous reste quelques secondes avant la fin de l'émission. Nathalie Parent, vraiment en deux mots, qu'est-ce que vous souhaitez en tant qu'association de parents adoptifs ?
Qu'on réponde aux besoins des enfants, c'est-à-dire que c'est le besoin de l'enfant qui doit primer et qui doit lui donner son projet de vie.
Odile Roussel.
Et non pas l'inverse.
Odile Roussel, du côté de l'adoption internationale et du Quai d'Orsay.
J'ai envie de dire la même chose que Nathalie Parent, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est notre préoccupation principale.
Bernard Laine, pour les enfants adoptables en France.
Moi, je constate une chose, c'est que la France a dépensé énormément d'argent jusqu'à présent pour aider l'adoption internationale et pratiquement rien pour l'adoption française. C'est étonnant.
Pierre Lévy-Soussan.
Pour moi, je dirais redonner ces lettres de noblesse à la filiation, c'est-à-dire une institution qui était capable de transformer un enfant en fils et fille de l'un et de l'autre. Actuellement, la crise de l'adoption et la crise sur un plan législatif de l'adoption est sans doute un problème dans lequel l'adoption ne se relèvera pas.
Merci à vous tous. Odile Roussel, directrice de la mission de l'adoption internationale au ministère français des Affaires étrangères. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre. Vous avez publié Destin de l'adoption chez Fayard et maintenant édité en poche. Nathalie Parent, présidente de Enfance et Familles d'Adoption. Merci à vous, les voisins, pour votre intérêt. Et merci à l'équipe. Et demain, 7 milliards de voisins. Alors, on parlera de ces femmes aux quatre coins du monde, omniprésentes sur la toile, le blog, Twitter, Instagram. Elles sont à la tête de véritables fan clubs et tout le monde guette leurs coups de cœur et leurs avis. On consacre l'émission à elles demain.